RFI midi, en temps universel 13h, à Paris 14h à Damas.
RFI midi, Charlotte de Rouen.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour RFI Midi. Maraf al-Kasra, nommé ministre de la Défense en Syrie dans le gouvernement de transition. Âgé de 37 ans, l'homme est un proche du nouvel homme fort du pays, Abu Mohammad al-Joulani. En Israël, la presse s'interroge sur les ratés de la défense aérienne après qu'un missile des rebelles yéménites houthis a fait 30 blessés hier près de Tel Aviv. En Syrie, cette grande mobilisation aujourd'hui contre le pouvoir en place et la corruption après la mort d'une quinzaine de personnes dans l'effondrement du auvent d'une gare récemment rénovée. La politique en France, un gouvernement sera-t-il nommé avant Noël? Les tractations se poursuivent ce week-end. On fait le point à la fin de cette édition.
RFI Midi.
Après le ministre des Affaires étrangères, cette nouvelle nomination à un poste clé dans le gouvernement intérimaire syrien, celle du ministre de la Défense, Maraf Abu Kasra, a été choisie par les nouvelles autorités syriennes. Bonjour Abla Jounaidi.
Bonjour.
Cet homme, c'est le commandant en chef de la branche militaire du groupe Ayat Tahrir al-Sham, du nouvel homme fort du pays, Abu Mohammad al-Joulani.
HTS, oui, grand gagnant de cette transition, ça y ressemble. En tout cas, Maraf Abu Kasra, c'est l'un des principaux chefs de ce qu'on appelle le département des opérations militaires, dominé par HTS. Voilà un homme qu'on voit peu dans les médias, mais il a dirigé les opérations qui ont mené à la chute du régime al-Assad il y a 2 semaines. Originaire de la ville de Hama, cet ingénieur agricole de formation a fui après 2011 avec sa famille à Idlib. Là-bas, il a combattu l'armée d'al-Assad sous le nom de guerre d'Abu Hassan al-Hamawi, notamment, avant d'intégrer le gouvernement du bastion rebelle aux côtés d'Abu Mohammed al-Joulani. Aujourd'hui, à la tête du ministère de la Défense, il sera en charge de l'important dossier de la réforme de l'armée, question hautement sensible pour un pays qui a traversé plus d'une décennie de guerre civile. Selon les nouvelles autorités, toutes les factions devraient être fusionnées pour former la nouvelle institution militaire, y compris HTS, reconnaît Maraf Abu Kasra, y compris les groupes armés kurdes qui, à l'heure où l'on parle, sont toujours engagés dans des combats contre des groupes armés syriens liés à la Turquie dans le nord du pays.
Abla Jounaidi est le nouvel homme fort de la Syrie. Abu Mohammad al-Joulani promet que son pays n'exercera plus d'ingérence négative au Liban et qu'il respectera la souveraineté de son voisin. Il recevait aujourd'hui une délégation conduite par le chef druze Walid Jumblat. En Israël, 24 heures après qu'un missile lancé par les rebelles houthis a fait 30 blessés près de Tel Aviv, l'État hébreu a ouvert une enquête et promet une réponse forte. C'est la deuxième attaque de missile venue du Yémen en 3 jours. Et la presse israélienne s'interroge, Pierre-Olivier, sur les ratés de la défense aérienne.
3 raisons principales expliqueraient l'échec de l'interception du missile. C'est en tout cas ce que croit savoir le quotidien israélien Yediot Aharonot. D'abord, une défaillance technique du système anti-aérien. Aucune des 3 couches qui composent ce dôme protecteur au-dessus d'Israël n'a, semble-t-il, fonctionné. Pourquoi ? C'est la deuxième raison. Selon plusieurs experts, le missile aurait été lancé sur une trajectoire balistique plate, le rendant particulièrement difficile à repérer par les systèmes de défense. Enfin, la trajectoire du missile aurait évolué en cours de route. L'Iran, qui fournit les outils, possède des têtes d'ogives manœuvrantes qui permettent de changer au dernier moment la direction de la charge explosive. Couplé à la vitesse du missile d'environ 5000 km/h, l'interception a été rendue presque impossible. La presse locale prévient que cette brèche dans le système anti-aérien doit être colmatée au plus vite et imagine déjà le scénario du pire si ce missile avait été doté d'une ogive nucléaire. Pierre-Olivier, Jérusalem, RFI.
À Gaza, la défense civile palestinienne annonce 28 morts dans plusieurs frappes israéliennes la nuit dernière, dont 4 enfants dans un bâtiment d'une école qui abrite plusieurs milliers de déplacés. L'armée israélienne affirme elle avoir ciblé des terroristes. Le ministère de la Santé gazaoui annonce par ailleurs un nouveau bilan de la guerre, 45 259 morts. Et puis notez que le pape François condamne de nouveau aujourd'hui la cruauté des frappes contre Gaza, message qu'avait déjà fait passer hier le souverain pontife. Les autorités israéliennes avaient réagi, l'accusant d'avoir 2 poids, 2 mesures et d'être déconnecté de la lutte contre le terrorisme. La Russie revendique la capture de deux villages dans l'est de l'Ukraine, le premier dans la région de Kharkiv, le second dans la région de Donetsk, que les forces russes, région que les forces russes contrôlent presque entièrement selon le ministère russe de la Défense. La Russie qui a accéléré la marche en avant dans l'est de l'Ukraine ces derniers mois, cherchant à gagner le plus de terrain possible avant l'arrivée au pouvoir du président américain Donald Trump. Le républicain avait promis de mettre rapidement fin à ce conflit qui dure depuis près de 3 ans sans toutefois faire pour l'instant de propositions concrètes pour un cessez-le-feu. Cette grande manifestation prévue aujourd'hui à Belgrade, la capitale serbe, la mobilisation pour demander des comptes au gouvernement après la mort de 15 personnes écrasées sous le haut vent d'une gare qui s'est effondrée dans le nord du pays. L'édifice avait pourtant subi d'importants travaux de rénovation. Depuis, la colère contre la corruption ne cesse de monter. Après plusieurs semaines de blocage dans les principales facultés du pays, les étudiants seront rejoints aujourd'hui par les agriculteurs. Natacha Mišić est étudiante et elle espère la plus grande mobilisation possible de la population.
Je pense que le temps est venu pour une mobilisation plus large. Les gens nous soutiennent, c'est certain. Ce que nous espérons tous, c'est de voir des changements. Nous voulons être fiers de notre pays. Et l'un des sujets qui nous tient le plus à cœur, c'est de pouvoir choisir de rester ici, parce que le système fonctionne. Alors c'est sûr, nous avons peur. En envoyant dans les médias des gens qui nous menacent, le pouvoir veut nous faire peur. Ces menaces se traduisent par des agressions physiques dans la rue. Des violences sont aussi bien exercées par des individus que par la police. Donc oui, on a tous peur, surtout parmi les étudiants. Ce qui est positif, c'est que cette peur diminue à mesure que nous sortons de notre isolement et que nous ne sommes pas seuls. Tous les étudiants sont unis, se soutiennent les uns les autres. Cela nous donne un sentiment de sécurité et une certitude concernant notre combat. Cette union nous donne du courage et les étudiants sont vraiment courageux, c'est certain.
Des propos recueillis par Yelena Tomic. En France, alors que François Bayrou s'est engagé à nommer son gouvernement avant Noël, son cabinet n'a toujours pas été officiellement annoncé. Les tractations se poursuivent encore ce week-end. Et Aurélien Devernois, le Premier ministre, doit s'entretenir avec Emmanuel Macron aujourd'hui.
Le chef de l'État, de retour de son déplacement qui l'a mené à Mayotte, Djibouti et en Éthiopie ces derniers jours et qui aura son mot à dire sur la liste de ministres qu'est en train d'élaborer François Bayrou. Selon les proches du Premier ministre, celle-ci est quasiment finalisée. Le gouvernement devrait compter 30 membres au maximum et être annoncé en une seule fois, toujours dans le délai fixé, c'est-à-dire avant le 25 décembre. François Bayrou, comme Michel Barnier, ne pourra s'appuyer que sur l'alliance entre le bloc macroniste et la droite républicaine. Mais contrairement à son prédécesseur, issu des rangs de la droite, il devra faire face à une méfiance des troupes de Laurent Wauquiez. Le patron de la droite républicaine a d'ailleurs refusé d'entrer au gouvernement en tant que ministre de l'économie, faute de garantie de François Bayrou sur l'absence de hausse d'impôts. Les sénateurs de droite sont aussi réticents. De quoi encore compliquer l'équation du Premier ministre qui ne pourra pas s'appuyer sur la gauche, même si l'ancien ministre socialiste du Travail, François Rebsamen, a annoncé qu'il était prêt à entrer au gouvernement. Mais ce n'est pas vraiment une prise de guerre. L'ex-maire de Dijon soutient Emmanuel Macron depuis 2017.
Aurélien Devernois du service politique de RFI. Une semaine après le passage du cyclone Chido, les habitants de Mayotte attendent encore de l'aide. L'eau courante est de retour par intermittence à Mamoudzou et des distributions s'organisent pour ceux qui ont tout perdu. Et puis notez qu'au Mozambique, le bilan du passage du cyclone est revu à la hausse avec 94 morts et plus de 110 000 habitations détruites. RFI, 14h09 à Maputo. 15h09 à Mamoudzou. L'heure de vous retrouver pour les sports. Olivier Pron, bonjour.
Bonjour Charlotte, bonjour à tous.
On a beaucoup de football aujourd'hui au programme. On commence en Espagne où l'Atlético Madrid a frappé un grand coup.
Les Colchoneros l'ont emmené et dominé à Barcelone, mais vainqueur 2-1 grâce à un but, son 8e de la saison du Norvégien Alexandre Sorloth à la 96e minute, une 12e victoire de rang, toute compétition confondue pour l'Atlético, qui propulse ce club en tête de la Liga, tout simplement, 3 longueurs devant le Barça, et avec un match en moins, des Blaugrana en perdition, une victoire sur leurs 7 derniers matchs, 4 défaites, le début de saison quasi idyllique et loin pour les hommes d'Hansi Flick, qui pourraient voir le Real Madrid, les doubler en cas de succès madrilène face au FC Séville cet après-midi.
Autre équipe en perdition, Olivier, Manchester City en Angleterre.
Et 9e défaite sur les 12 derniers matchs, Charlotte. Les 12 derniers matchs des Sky Blues, c'était hier. Une seule victoire en somme depuis le 30 octobre. Pep Guardiola et ses troupes en plein naufrage à Aston Villa. Ultra dominé et battu 2-1 au final. City quadruple tenant du titre et seulement 6e de Premier League. À 9 longueurs de Liverpool qui joue à partir de 16h30 temps universel à Tottenham et qui compte 2 matchs de retard. Chelsea qui se déplace à Everton. Everton est à 2 longueurs des Reds d'Arne Slot. Arsenal 3e à 1 point après son net succès hier à Crystal Palace 5 buts à 1.
En France, 32e de finale de la Coupe de France ce week-end qui marque l'entrée en lice des clubs de Ligue 1.
Et leur lot de surprises mauvaises souvent, hein, clairement pour l'élite. Le Havre et Montpellier en ont fait les frais. Les Havrais 17e en Ligue 1 et battu 1-0 par Saint-Brieuc, le Stade Briochin, club de National 2. Les Montpelliérains, lanterne rouge du championnat, étriés 4-0 carrément au Puy qui évolue également dans l'équivalent de la 4e division française. C'est passé sinon pour Brest, Toulouse, Nantes, Strasbourg et Lyon.
Et la suite ce dimanche, Olivier.
Union Saint-Jean et Steel Mutzig. Joli nom, hein. Club de Régional 1, la 6e division, donc 100% amateur. Ils reçoivent respectivement Monaco et Reims. Saint-Étienne-Marseille, belle affiche, 13h45. Mais le choc, c'est en soirée avec le déplacement de Paris, du PSG, 15 fois titré dans la compétition. À Lens, une affiche de gala donc pour les nordistes, face à des Parisiens invaincus sur la scène nationale depuis le début de saison. Pas une raison pour ne pas y croire, explique le milieu son et or Adrien Thomasson.
On joue le PSG qui est premier en championnat, qui est invaincu tout simplement sur la scène nationale. Après, on s'est dit que de toute façon, pour aller au bout, il fallait les jouer. Donc, que ça soit en 32e de finale ou en demi-finale, pour nous, ça ne change rien. On a l'avantage quand même et ce n'est pas neutre de les recevoir. Et on sait qu'à Bollard, un dimanche soir, dans un stade qui sera encore à guichet fermé, ça va être un bon match à jouer. Du moins, en tant que joueur, c'est vraiment des matchs qui sont bien préparés. La motivation, elle est plutôt simple dans ces moments-là. Donc, à nous de faire un gros match, parce que bien évidemment, on sait que ça va être un gros challenge.
Lance PSG 20h temps universel.
Et on termine, Olivier, avec du basket et de la boxe.
Le basket, la performance XXL de Victor Wembanyama avec les Spurs de San Antonio la nuit dernière qui battent Portland 114-94, 30 points et surtout 10 contres pour le Français, un record cette saison en NBA. En boxe, pas de revanche pour Tyson Fury, le Britannique, une nouvelle fois battu au point à l'unanimité des juges par l'Ukrainien Usyk dans le choc entre ce qui se fait de mieux, dit-on, actuellement chez les lourds au niveau mondial.
C'était le journal des sports d'Olivier Pron. Les images des quartiers dévastés de Mayotte, de la guerre en Ukraine ou du Proche-Orient, des lives interminables sur la nomination d'un Premier ministre, la constitution d'un gouvernement à la télé, la radio, sur les réseaux sociaux. Les Français sont-ils en train de saturer de toutes les informations qui leur parviennent? C'est l'objet d'une étude de l'Obsoco Arte et la Fondation Jean Jaurès et on en parle avec vous ce midi. Guénaëlle Gault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Alors, un Français sur deux souffrirait de fatigue informationnelle. C'est ce qui ressort de votre étude. Et je vous propose d'abord d'écouter ces témoignages recueillis par notre correspondante Sophie Bourlay.
Marie et Mercière, Didier et Van de la Paella, tous les deux ont la cinquantaine et en ont marre de l'actualité.
Je regarde même plus la télé. C'est du vu, c'est du redit, c'est toujours pareil.
Donc du coup, vous ne regardez plus la télé, vous ne lisez plus le journal, vous
écoutez. Le journal, dès que je suis au café, je lis la première page, ou la météo des fois. Voir s'il y a eu quelque chose dans le village ou quoi, mais on n'en parle jamais.
J'écoute la radio, même décortique pas assez la situation des gens en fait. On parle des 20%, 30% moins concernés en fait. Les politiques, les stars, c'est pas la vraie vie.
Alexis, 38 ans, vend des œufs bio et s'informe principalement à la radio.
Je trouve que c'est assez anxiogène en fait. On a souvent tendance à parler des choses qui marchent pas ou qui se passent mal que des choses qui réussissent. Et c'est un peu dommage parce que du coup ça donne un peu une négativité ambiante à tout le monde quoi. Au lieu de tirer les gens vers le haut, ça les laisse un peu chacun de leur côté à se dire que tout va mal. Alors que non, les choses vont plutôt bien.
Parmi les principaux reproches, trop de politique politicienne, un manque de représentativité, des sujets en boucle ou trop négatifs. Sophie Bourlay, Cadené, RFI.
Alors Guénaëlle Gault, est-ce que ces témoignages qu'on vient d'entendre recoupent ceux que vous avez pu recueillir lors de votre enquête ?
Oui, tout à fait. C'est exactement ce que l'on voit dans notre enquête. En fait, on avait déjà fait cette enquête en 2022. Il y avait déjà un Français sur deux qui se disait fatigué de l'information, avec tout ce que vos auditeurs viennent de décrire. Hein. Et 2 ans plus tard, en fait, il y a le même niveau de fatigue, mais il y a un phénomène supplémentaire, c'est-à-dire qu'on voit qu'il se retire justement un peu de l'information. Parce que l'information, théoriquement, c'est fait pour justement être métabolisé en connaissance, en opinion, en action. Et là, on voit finalement que c'est pas le cas. Hein, c'est ce qu'ils décrivent. Et puis, c'est aussi fait pour effectivement donner à voir ce qu'est la société française. Et beaucoup, en fait, de Français aujourd'hui ne se retrouvent plus dans l'information. Il y a un décalage entre ce qu'ils vivent eux et ce qui est représenté, qui est souvent extrêmement polarisé et qui ne rend pas grâce, en fait, à leur propre positionnement.
Alors, vous le disiez, quelles sont les conséquences que ça peut avoir sur la manière dont les Français s'informent ?
Alors, en termes de conséquences, ce que l'on voit là cette année clairement, et c'est pour ça que l'enquête, on l'a appelée cette année l'exode informationnel, c'est qu'on voit que, du coup, l'importance donnée à l'information, le nombre de canaux qu'on va utiliser pour s'informer, le fait aussi d'être actif dans son rapport à l'information, et bien tout ça, en fait, perd des points vraiment depuis 2 ans d'une manière assez spectaculaire.
Alors, dans votre enquête, vous distinguez plusieurs catégories de fatigués par ce trop-plein d'informations, notamment des jeunes qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne font pas partie des plus à l'aise pour s'informer. Pourquoi ?
Ben, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs profils. Il y a un profil de jeunes, en effet, que vous mentionnez, de jeunes plutôt urbains, plutôt diplômés, pour qui sont les plus consommateurs d'informations, en fait, mais qui cumulent un peu tous les paradoxes. C'est-à-dire qu'ils sont dans un rapport très informés aussi sur les réseaux sociaux, donc ont un rapport très actif à l'information. Et en même temps, ils souffrent vraiment de tout, vous savez, toutes les petites altérations, en fait, c'est-à-dire le fait d'avoir un rapport assez compulsif à l'information, le fait par exemple ce qu'on a appelé le binge scrolling, c'est-à-dire ce fait d'enchaîner en fait des vidéos sans fin et en y passant beaucoup plus de temps que prévu. C'est un Français sur deux, mais ça va être 77% des 18-24 ans. Et on les voit en fait dans un rapport à l'information, à la fois ils font confiance aux médias, mais en même temps ils peuvent aussi se tourner vers des informations plus alternatives, voire complotistes. Donc on a en fait ce petit groupe de jeunes qui d'ailleurs se diminue hein, parce que le fait d'avoir été très fatigué, on l'a vu il y a 2 ans, ben certains ont sans doute tiré les conséquences. Après, on voit aussi d'autres groupes que l'information, ben justement un rapport compliqué à l'information va rendre plus vulnérable, un rapport plus compliqué à l'information va rendre beaucoup plus défiant vis-à-vis des institutions. Et puis, on a finalement un groupe qui, en revanche, a mis de la distance, n'est pas fatigué parce que justement, ils se sont déjà retirés. Ce groupe prend 5 points entre nos deux vagues.
Donc finalement, c'est une stratégie pour ces fatigués de l'information, c'est qu'en fait, on arrête de trop regarder son téléphone, on coupe les notifications pour se préserver un peu, pour préserver sa santé mentale.
Oui, voilà, parce que les conséquences, elles sont à plusieurs niveaux. Elles sont d'abord pour les Français au niveau individuel. C'est-à-dire qu'on voit que les personnes qui sont plus fatiguées, eh bien, sont plus sujettes au stress, sont plus sujettes à la déprime, sont plus angoissées. Hein. C'est aussi ce que décrivaient les personnes qu'on entendait dans votre petit reportage. Et donc, il y a d'abord les conséquences pour soi-même. Après, il y a des conséquences qui sont assez graves pour le collectif. C'est-à-dire, ça, comme je vous le disais, ça nourrit de la défiance, y compris de la défiance dans les médias et dans l'information. Ça va aussi créer le sentiment d'une démocratie qui fonctionne moins bien.
Et alors, comment faire ? Il nous reste 20 secondes. Comment faire ? Est-ce que vous avez des pistes de solutions ?
Bah là aussi, il faut, je pense, agir à la fois au niveau individuel, savoir se protéger, faire un petit peu son bilan de quel type d'information on va aller chercher. Au niveau, sans doute, des médias, s'interroger, mais je sais que de nombreux médias le font sur à la fois le contenu de l'information et aussi son format pour trancher avec le flux permanent. Et puis sans doute aussi au niveau des pouvoirs publics, hein, on voit que nous sommes dans une bataille féroce pour l'attention et que les plateformes ont des moyens colossaux pour la capter. Et sans doute là au niveau des pouvoirs publics, à la fois sur le plan de l'éducation et sur le plan de la régulation.
À mieux faire le tri. Merci beaucoup Guénaël Gault, directrice générale de l'OPSOCO. Le Canada accueille beaucoup d'étrangers, mais beaucoup repartent au bout de quelques années. C'est ce qui ressort d'une étude du Conference Board, un organisme qui s'intéresse aux politiques publiques. Une réalité particulièrement prononcée chez les francophones. Reportage de Pascal Guéricola.
Installée dans la ville de Québec depuis 4 ans, Aurélie et son conjoint rentrent en France avant la fin de l'année avec leur bébé de 8 mois pour se rapprocher de leur famille. Parmi les raisons du retour, la jeune femme rencontrée dans un café évoque aussi l'augmentation du coût de la vie dans sa patrie d'adoption.
Je note le montant de nos achats d'épicerie depuis qu'on est arrivé pour faire nos comptes. Et ça a vraiment beaucoup augmenté depuis qu'on est là. Tout coûte très très cher. Le loyer aussi, tous les loyers, à moins de se retrouver en sous-sol ou en demi-sous-sol. C'est vrai que je pense qu'on a quand même l'idée, quand on vient de la France, de... OK, on aura un meilleur salaire, donc un meilleur niveau de vie. En l'occurrence, comme le coût de la vie autour est plus élevé, on n'a pas forcément un meilleur niveau de vie. C'est un système très capitaliste ici et on paye tout le temps pour tout. J'ai toujours l'impression de mettre la main à la carte.
Ils sont très gentils, on s'entend très bien, mais ça reste de la surface. Ça va pas aller plus loin.
Sur les réseaux sociaux, plusieurs discutent également de la tendance du Québec et du Canada à se vanter un peu trop du caractère accueillant du pays. Autour d'un thé chez elle, Alexandra parle des difficiles liens d'amitié avec les Québécois. La Française songe à repartir avec sa famille, faute de se sentir intégrée au bout de 8 ans.
On ne nous fait pas sentir qu'on est ici chez nous comme Québécois. On sera toujours des Français. On se sent seul parfois, on ne se sent pas... On a eu du mal à s'insérer, à intégrer cette culture québécoise. Et faire toujours des efforts, c'est vrai que ça, à la longue, ça fatigue.
Les efforts dont parle la mère de famille concernent aussi se déployer pour se conformer aux exigences des employeurs. Dans son bureau au 5e étage de l'Université Laval, la géographe Adèle Garnier énumère les obstacles professionnels qu'affrontent les immigrants, même après plusieurs années au Canada.
Une des barrières, justement, c'est la reconnaissance des compétences. Mais mettons, vous êtes psychologue, vous êtes avocat, des métiers comme ça, vous êtes ingénieur. Ça demande beaucoup d'efforts au Canada et au Québec, particulièrement, de rester. Vous êtes médecin, les démarches à faire pour être médecin ici, quand vous êtes surtout pas français, c'est très difficile. S'ils n'ont pas le travail qu'ils veulent ou le salaire qu'ils veulent, ils vont peut-être aller chercher mieux ailleurs.
Les statistiques montrent que les personnes davantage qualifiées ont tendance à quitter le Canada. Un signal d'alarme, selon la chercheuse. Elle invite les autorités à déployer plus de moyens pour les retenir et leur faire une place ici. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
C'est un projet structurant pour l'Europe de la défense, son nom, le MGCS, le principal système de combat terrestre. Le char du futur doit remplacer le Léopard 2 dans l'armée allemande et le Leclerc dans l'armée française à l'horizon 2040. Le canon de ce nouveau char existe déjà, mais il fait l'objet de désaccords entre industriels, Franck Alexandre.
Qu'il est difficile de s'entendre lorsqu'on est quatre. Le char du futur, porté par Thales, KNDS France, anciennement Nexter, KNDS Allemagne avec Raoul Maffei Wegmann et enfin Rheinmetall, le géant allemand de la défense. Pour garantir un partage équitable des tâches, 8 piliers capacitaires ont été édictés, mais les choix technologiques seront faits après évaluation et des deux côtés du Rhin, on s'écharpe sur le canon. Rheinmetall a fait le choix d'un tube de 130 mm, quand Nexter propose l'Ascalon, deux tubes pour tirer des obus de 120 et 140 mm et l'Ascalon, nous l'avons vu au dernier salon de Rossatori, monté sur un char Leclerc Evolution. François Groigny, directeur de programme char de combat futur chez KNDS France, nous en a fait la présentation.
Quatre caractéristiques essentielles. D'abord, un niveau de puissance délivré à la bouche et à la cible jamais égalé. On a là une capacité à changer de calibre en moins moins de 30 minutes. Troisième caractéristique, il est extrêmement compact, donc on utilise une architecture dite super shot. On voit ici la munition, qui est une munition de 140, qui fait donc 130 mm de haut. Dernière chose, c'est qu'on travaille beaucoup à l'intégrabilité de ce canon en tourelle, et donc on pourra loger plus de personnel en châssis.
Côté français, l'on craint surtout que Rheinmetall et Chrome Affair Wegmann réunis imposent le canon allemand, malgré le coup d'avance de Nexter qui, avec l'Ascalon, propose une technologie de rupture.
Ascalon, c'est d'abord une technologie. Ici, elle est déclinée en 140 et en 120, mais c'est une technologie qui pourrait être déclinée dans un autre calibre. Tout le monde connaît bien le canon du César aujourd'hui, qui est une référence mondiale. On espère faire de ce canon également la référence mondiale, mais cette fois-ci, pas sur le segment de l'artillerie, mais sur le segment du char.
Il y a donc des arbitrages industriels lourds de conséquences, surtout dans un contexte de retour de la guerre de haute intensité. François Grosny.
La guerre en Ukraine a remis sur le devant de la scène la guerre symétrique. Ça veut dire qu'il faut se rééquiper avec toute la gamme. Et puis le segment du char est un segment stratégique puisque c'est autour de ce segment qu'est en train de se réorganiser l'industrie de défense terrestre. On est dans une phase un peu de concentration. Donc c'est vraiment sur ce segment de produits que s'opère la concentration de l'industrie. Et chacun travaille ses domaines d'excellence pour arriver à construire dans la durée le Lego qui va faire matcher les différents industriels.
Et pour que cela puisse matcher, la direction générale de l'armement émet l'hypothèse d'une coexistence de deux chars différents, rappelant que le projet commun est avant tout un cloud de combat et des drones, un ensemble qui pour l'heure reste à l'état d'ébauche.
Ligne de défense avec Franck Alexandre. Les voies des fleuves, c'est le thème de la Biennale d'art contemporain de Lyon, 17e édition, qui foisonne de propositions, et notamment celle de Chivet la Multiple. Cette jeune artiste nous plonge dans une œuvre immersive, au fil de l'eau, José Marigno.
Alexia Fabre, directrice des Beaux-Arts de Paris, est la commissaire invitée de cette 17e édition de la Biennale d'art contemporain de Lyon. En proposant le thème « Les voies des fleuves », la maîtresse de cérémonie entend célébrer l'accueil de l'autre.
C'est une sorte de tonalité que l'on propose aux artistes, c'est le sujet des relations à l'autre, des relations à notre histoire, mais aussi à celle des autres. Chaque artiste a interprété ce sujet en y amenant le cœur de l'œuvre de chacun. Tous les artistes ont eu à cœur de proposer des espaces de rencontre, de rassemblement, pour que le public partage une expérience.
Durant notre visite, on ne peut pas dire que tous les créateurs ont respecté ces consignes, à l'exception de Shiva et la Multiple. C'est comme ça que cet artiste pluridisciplinaire de 31 ans se définit. Née en Nouvelle-Calédonie, passée par les Beaux-Arts de Mexico, elle crée une œuvre autour des fleuves et c'est dans un bruit d'eau qu'on entame son parcours.
On entend l'eau du fleuve Congo, du fleuve Douro, du fleuve Sénégal. Mon travail, c'est de traverser les différents fleuves dans le monde pour comprendre cette grande entité fleuve qui est à la fois politique, économique, spirituelle et poétique.
Le tout évoque l'effacement des frontières géographiques. Dans cette salle aux couleurs flashy, les murs sont recouverts de ces photomontages qui flirtent avec le divin et les rêves.
Il y a le cycle de la lune, il y a beaucoup de travail du coup de composition emojique que je fais sur mon téléphone, qui sont en fait des tambours sacrés, chacun ayant sa personnalité et sa vibration. Au milieu, on a une fiole, il y a des gouttes des différents fleuves que j'ai traversé. On a Liba qui est la représentation de cette entité fleuve. Et aussi on a des images des différentes offrandes que j'ai effectuées pour ces différents fleuves.
Se concentrant sur un conte initiatique, sa création la guide donc sur les bords des fleuves du monde où elle récolte des calebasses porteuses de tradition.
La calebasse, j'ai été initiée par Kaliman, un maître des traditions bushinengue en Guyane française. Et aujourd'hui je fais partie de ce maillon de la chaîne de savoir-faire. Puisqu'aujourd'hui, c'est à moi de transmettre la puissance, la grandeur qu'a la calebasse et l'importance aussi des fleuves, puisque chacune des traversées m'apprend quelque chose et finalement me transforme moi-même en fleuve à bord de ma calebasse.
Traversant le temps et l'espace, l'œuvre de cette jeune artiste mêle les mondes et les univers. Ses nombreux voyages font de Shiva et la Multiple une entité plurielle qui, à travers le spirituel, cherche à révéler le réel.
Une œuvre à découvrir jusqu'au 5 janvier à Lyon. C'est ainsi que s'achève RFI Midi. Merci à Benoît Gouttorbe qui m'a accompagné à la réalisation. Rédaction en chef Sylvie Noël, attachée de production Najat Aguerre. Merci de votre fidélité à la Radio du Monde. Restez avec nous. Le retour de l'information sur le continent africain, ce sera dans une minute.
Après le passage du cyclone Chido qui a dévasté Mayotte, RFI s'associe à la Croix-Rouge française qui lance un appel à dons pour soutenir la population touchée par la catastrophe d'une ampleur immense. Dans l'immédiat, la priorité pour aider les victimes est d'apporter de l'eau, de la nourriture, des produits d'hygiène et du matériel pour construire des abris. Chaque don compte. Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Pour aider les volontaires de la Croix-Rouge sur place, faites un don sur croix-rouge.fr.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide et ses invités convient 8 milliards de voisins à témoigner et échanger leurs expériences sur l'évolution de leur mode de vie.
Demain.
Le recours à l'intelligence artificielle ne cesse de s'accélérer. Nouveaux métiers, formations aux outils, quels défis attendent les travailleurs ?
Mardi.
Harlem à New York ne sera bientôt plus un quartier noir. Comment le phénomène de gentrification s'est-il déployé ?
8 milliards de voisins. Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.